Ah, c'est bon. Ah, gloire à Dieu, c'est tellement bon, c'est édifiant. Eh bien, on espère que Dieu vous a béni cette semaine et on sait que Dieu bénit. Hein? Chaque jour, les bénitions de l'Éternel se renouvellent, chaque matin. Mais il me semble que certaines semaines, on dirait que les bénédictions sont plus évidentes. D'autres fois, il faut marcher par la foi et c'est comme ça. On raconte l'histoire d'un homme qui allait visiter un verger d'oranger aux États-Unis, probablement au sud des États-Unis. Vous savez ce qu'on voit à la télévision souvent, ces vergers pleins d'oranges et d'arbres. Et ça donnait qu'il faisait très, très, très chaud. Et là, une personne est allée visiter ces vergers, puis le guide qui était là faisait le tour avec lui pour lui montrer les vergers, les arbres et tout ça, et ces arbres fruitiers, ces belles oranges. Mais là, il y avait eu un temps de chaleur, de sécheresse, c'est un temps de canicule, très chaud, et certains arbres, les arbres commençaient à se dessécher, et même quelques-uns étaient en train de mourir. Alors, la personne, le guide, fait la tournée, fait visiter ces arbres, et puis vers la fin de la tournée du verger, il a dit ceci, il a dit, écoutez bien, laissez-moi vous emmener dans mon verger. Et puis là, il a emmené ce visiteur, ce touriste, dans son verger, et les arbres étaient complètement différents. Les arbres, c'était super beau. Pourtant, même soleil, même température, mais les arbres étaient solides, étaient forts, étaient beaux. Alors, le gars ne comprenait pas, le touriste ne comprenait pas. Et le guide lui a expliqué, il a dit, regarde bien ce que j'ai fait. Lorsque mes arbres étaient tout petits, lorsqu'ils étaient enfants, le bébé, là, tout petit, lorsque je les ai plantés, j'ai fait par exprès de temps en temps pour ne pas donner d'eau. Je les ai privés d'eau afin de les forcer, les inciter à descendre, que les racines puissent descendre encore plus à cause de l'épreuve que je leur donnais, la difficulté auxquelles tu es exposé. Les racines ont poussé en profondeur pour aller chercher de l'humidité plus creux. Alors, mes racines, les racines de mes arbres sont plus creux que tous les arbres de la région, si bien qu'aujourd'hui, mes arbres sont plus forts, ils sont capables même de passer une autre 2 semaines sans pluie, et ils vont continuer à produire des fruits. En d'autres mots, les épreuves, les difficultés de ces arbres, lorsqu'ils étaient plus jeunes, ont permis de se renforcer. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous emmener, nous préparer, nous forger, nous former, de sorte qu'on puisse grandir et que les difficultés et les épreuves de la pluie, de la vie puissent nous rendre plus forts. Et c'est ce que nous sommes en train de regarder dans une des lettres de Pierre, dans 1 Pierre. Et j'aimerais vous inviter, depuis quelques semaines, on se penche sur une portion des Écritures dans 1 Pierre, chapitre 1, et on va commencer la lecture au verset 22. Comment faire face aux difficultés? C'est tout à fait possible de faire face aux difficultés, aux épreuves de la vie, de manière à ce que je puisse devenir meilleur et encore plus fort, plutôt que de m'endurcir et devenir amer. Et c'est là que Dieu veut nous emmener, veut nous faire grandir. Et nous voyons cela justement dans cette portion des Écritures qu'on a vue depuis quelques semaines. Alors, 1 Pierre, chapitre 1, on va commencer au verset 22, on poursuit jusqu'au chapitre 2, verset 3. 1 Pierre 1, 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Courbons-nous juste un instant et demandons à Dieu de bénir notre temps ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette Église et te remercier pour tous les ministères, comme disait notre frère Gilles ce matin, qui s'exercent ce matin pendant ce service et au courant de toute la semaine d'ailleurs. Je pense à tous les jeunes qui étaient au camp cette semaine. Je pense à notre frère Dominique, son épouse et tous ceux qui aidaient au camp des Bouleaux. et les dizaines et des dizaines de jeunes. On pense aux milliers même de jeunes et de moins jeunes qui iront dans les camps cet été. Je pense à ce camp des Bouleaux, je pense au camp Patmos et les autres camps au Québec qui cherchent à faire avancer ton œuvre dans la vie de tes enfants. Alors, on te prie pour ces camps, pour ces ministères, on te prie pour tous ceux qui exercent un ministère ce matin, que tu puisses les bénir. Et Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs par ce passage. Oh Seigneur, on a des décisions à prendre, Seigneur, ce matin, et on te prie que tu puisses nous aider à les prendre par ton esprit, que tu nous inspires, que tu nous pousses, que tu nous incites à grandir. Parle à nos cœurs ce matin, alors qu'on s'arrête sur ce message que ton esprit a livré sous cette plume de pierre, au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre 2,2 dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » On est en train de parler ici, Pierre est en train de parler de croissance, est en train de parler de grandir dans sa foi. Plusieurs expressions, grandir dans le Seigneur, grandir spirituellement, marcher avec le Seigneur de plus en plus, devenir de plus en plus à l'image de Christ. Ça veut dire grandir, tout ça. G.I. Packer, l'auteur très célèbre pour son livre bien connu, Connaître Dieu, voit trois manières vraiment de grandir comme chrétien. Il les appelle les trois sentiers de la croissance. Il dit, tout d'abord, le sentier de l'acceptation, le sentier de la transformation et le sentier de l'alimentation. Alors, le sentier de l'acceptation dit ceci, « Aimez-vous les uns les autres sincèrement et profondément. » Le sentier de la transformation, purifiez-vous par l'obéissance de la vérité. Et le sentier de l'alimentation, désirez le lait spirituel, la parole de Dieu. Maintenant, on va y revenir la semaine prochaine, on va regarder ça plus en détail. On va essayer de donner des outils aussi la semaine prochaine pour nous aider à grandir dans ce cheminement, dans ce pèlerinage que nous faisons alors qu'on cherche à grandir dans le Seigneur. Mais ce matin, on veut s'arrêter sur cette croissance, c'est l'élément de grandir. On veut regarder l'importance de grandir. On veut s'arrêter sur la nécessité de grandir. On veut regarder justement cette phrase de Pierre qui dit « Comme nouveau-né, grandissez. Comme nouveau-né, grandissez. » Et on retrouve cette idée à plusieurs endroits dans les Écritures. Par exemple, on retrouve ce passage dans Hébreux 5, 12 qui dit « Alors que vous devriez être des enseignants, dit l'auteur aux Hébreux, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin du lait et non de nourriture solide. » L'auteur aux Hébreux écrit justement à des Juifs qui avaient fait un bout de chemin avec les chrétiens, n'avaient pas vraiment franchi la clôture à prendre position nécessairement pour l'Évangile, mais ils regardaient, ils étaient intellectuellement convaincus que Jésus était le Messie. Mais là, avec la pression de la persécution et des difficultés, ils ont tendance à vouloir faire marche arrière et retourner dans la base qui était le judaïsme et aux lois et tout ça. Et l'auteur aux Hébreux les exhorte à grandir, à faire le pas de foi et avancer. Ailleurs, on voit dans 1 Jean 2, 12, un passage très important pour nous, et on va s'arrêter sur ce passage-là plus profondément ce matin. Il dit, « Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Alors, l'image, c'est de trois stades de développement. De quoi parle-t-il? Eh bien, Jean, l'auteur de son épître, Jean est en train de nous dire qu'il y a différentes phases dans la vie chrétienne, tout comme dans la croissance physique, et nous avons besoin de grandir. Il y a des bébés, des jeunes gens, des jeunes femmes, et des parents, des pères et des mères. Alors, nous avons besoin de voir la vie chrétienne comme un processus, un voyage, un processus de croissance. Nous devons tous reconnaître, c'est important de le reconnaître. Lorsqu'on devient chrétien, on devient un enfant de Dieu. On est comme un bébé spirituel. On est un nouveau-né dans la foi. Et on a besoin de reconnaître aussi que nous avons besoin de grandir. La semaine prochaine, on va voir comment grandir. On va donner des outils pour nous aider. Mais on veut vraiment s'arrêter sur une question ce matin, sur une chose, le besoin de grandir. Et c'est le message que nous avons ici. Nous avons besoin de grandir. Le message que Pierre nous laisse ici. Les enfants de Dieu ont besoin de grandir. Ils ont besoin de prendre la décision de dire, et ça, c'est une décision solennelle, importante entre vous et Dieu. Vous devez prendre cette décision. Moi, je ne veux pas rester au stade où j'en suis. Quelques-uns parmi vous, vous avez resté bloqué à quelque part, peut-être dans votre vie chrétienne, parce que vous avez vécu soit des épreuves, il y a de la colère encore dans votre cœur, il y a quelque chose qui se passe et il y a comme un mur qui vous empêche d'avancer. Mais moi, j'aimerais vous donner l'occasion ce matin de prendre la décision de dire, « Seigneur, moi, je viens déposer à tes pieds vraiment ce qui m'a empêché depuis des années peut-être à avancer ou à devenir ce que tu aimerais que je devienne, développer mon plein potentiel. Et Seigneur, ce matin, je prends la décision par la foi, avec les yeux de la foi, je prends cette décision de vraiment m'en remettre à toi, de venir déposer ce qui m'empêche d'avancer. Et moi, je prends la décision par la foi de grandir. » Moi, j'aimerais vous donner l'occasion, à la fin du service d'ailleurs, je vais vous donner cet appel-là. Je vais vous lancer une invitation à venir en avant et prendre cette décision de dire, « Moi, ce matin, le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vous parle ce matin, moi, j'aimerais vous inviter à la fin du service de prendre position et venir devant Dieu. Dis-moi, Seigneur, je veux grandir. Oui, je veux grandir, Seigneur. » La vie chrétienne est composée de phases de croissance. Pierre nous dit, « Aimez-vous les uns les autres. » Et tout de suite après, il dit, « Nouveau-né, grandissez. » Jean lui-même, dans sa première épître, comme on vient de voir, il dit, « Aimez-vous les uns les autres. » Ensuite, il dit, « Je vous écris petit enfant, je vous écris jeune gens, et je vous écris père. » Voyez-vous, cela est immensément important. Nous avons besoin de saisir cela. On a besoin de réaliser que nous sommes dans un voyage, dans un pèlerinage, dans un parcours de formation et de croissance de disciples. Dieu ne veut pas que tu restes à cet endroit où tu es aujourd'hui. Il veut te voir grandir. Il veut te voir prendre cette décision par la foi où tu veux grandir. Dans sa première épître, Jean nous dit cela, nous montre qu'il y a trois phases ici dans sa lettre, des phases, des stades de développement de la vie chrétienne. Alors, de la même façon qu'on va traverser différents stades de développement dans notre vie, au cours de notre vie physiquement, de bébé à l'enfance, l'enfance à l'adolescence et l'adolescence à l'âge adulte, de la même manière, on va traverser des phases de croissance dans notre vie spirituelle comme vie chrétienne. Vous et moi, on traverse différentes phases de développement dans la vie chrétienne. Et tout comme dans la vie, chaque stade va demander, va nous inciter à faire des choix, à apprendre des nouvelles valeurs. On va apprendre de nouvelles attitudes. En grandissant, vous savez, on a à apprendre à apprivoiser des nouvelles habiletés, des nouvelles attitudes. Et c'est ce qui arrive en grandissant. On apprend des nouvelles choses. Il y a des risques aussi en grandissant. On a peur parfois. Il y a des nouveaux défis qui se présentent à nous, qui s'offrent à nous. Et ça fait partie de la croissance. Par exemple, au stade de bébé, on commence à découvrir les sons, les mots. Et tranquillement, on vieillit. On va commencer à découvrir comment faire des phrases. C'est tout à fait beau. C'est beau de voir mes petits-enfants. On les a vus l'autre jour. C'est la première fois qu'on les voyait depuis un an. J'avais le goût de faire mon oncle, puis vous montrer, faire mon oncle ici, pour vous montrer une photo de toute la gang. C'était la première fois qu'on se voyait, tous mes petits-enfants ensemble, 12 petits-enfants, on est allés chez Julie à Trois-Rivières l'autre jour, puis toute la gang était là. Et de voir deux petits-enfants qui ont été adoptés, je vous ai raconté ça, certains parmi vous, vous avez suivi l'histoire sur Facebook. Et il est en train d'apprendre le français, puis en même temps, en anglais. C'est tout un défi pour lui. Il parle le russe, un peu d'ukrainien, puis là, il va dans une école anglaise, puis il reste dans une maison francophone. Et puis, imaginez, il mélange les mots et tout ça, puis il m'appelle toutes sortes de noms, puis je lui demande pas ce que ça veut dire. Mais c'est ça, ça fait partie de la croissance. C'est des stades de développement, puis tu es en train d'apprendre les choses. Tu es en train d'apprendre les valeurs aussi d'une famille chrétienne. Pour la première fois de sa vie, il est exposé, il se retrouve dans un foyer chrétien. Et l'autre jour, je l'ai vu, il prie, il commence à apprendre à prier. Et c'est tout à fait incroyable, pareil. Hein? Oui, l'adoption, dans leur cas, tranquillement, va, on l'espère, les emmener à l'Évangile. Alors, non seulement qu'ils vont grandir dans toutes sortes d'expériences de la vie, mais en plus, on espère dans le Seigneur. Lorsque Jean est en train de nous dire « Je vous écris enfant, je vous écris jeune gens et je vous écris père », ce qu'il est en train de dire, dans le fond, c'est que chaque stade développe du savoir-faire, des habiletés, des nouvelles attitudes. C'est ça qu'il est en train de dire. Il parle au niveau, à chaque niveau ici, de croissance. La vie chrétienne n'est pas statique. C'est fascinant, c'est une aventure, c'est excitant, on veut grandir. Mais en même temps, ça comprend des défis. Il y a des défis à grandir. On le voit par exemple dans les entreprises. La nouvelle affaire maintenant, le nouveau nom, c'est les conflits intergénérationnels. Les entreprises là sont là et ils s'aperçoivent que les gens plus âgés ont des valeurs un peu différentes des jeunes, des plus jeunes qui rentrent dans l'entreprise. Et là, ça fait des collisions dans les entreprises. Même les gens qui sont en charge du personnel vont commencer. Il y a même des cours qui se donnent maintenant comment gérer le personnel intergénérationnel. Et là, tranquillement, au début, on voyait ça comme des défis puis des problèmes. Puis là, on s'aperçoit, hey, il y a des richesses à aller chercher là-dedans. Chaque stade a ses forces, a des belles richesses à les puiser, puis on veut apprendre de ça et de chacun à les chercher, et c'est tout un art maintenant. Alors, mais c'est ça, c'est une question de développement de stade. Chaque niveau, chaque stade a ses défis. Par exemple, on prend l'exemple des enfants. Lorsque les enfants sont bébés, les enfants, tu vas les encadrer, tu vas les entourer. Tu ne veux pas laisser un bébé faire ce qu'il veut. Mon ami, ça va être affreux. C'est même, savez-vous qu'au Québec, c'est même illégal de laisser... de ne pas encadrer les enfants, de ne pas les entourer. Il y a même une loi qui existe, l'article 38, et ils appellent ça la négligence parentale. Laissez-moi vous la lire. Elle, d'ailleurs, a été révisée tout dernièrement, en l'année 2007. Laissez-moi vous lire ceci. Lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif, regardez bien ce que ça dit, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié. C'est évident, hein? Tu veux encadrer, tu veux entourer les enfants. Les enfants n'ont pas l'âge, ils n'ont pas la connaissance et la sagesse de savoir comment se protéger. Ils ne connaissent pas le monde autour d'eux, les dangers. L'enfant, mon ami, il partirait à marcher, traverser la rue. Là. Tiens, Maloney, Grébert, on traverse ça, c'est encore le problème. C'est un enfant lui-même, il ne verrait pas le danger. Alors, on les entoure, c'est pour ça qu'on les encadre, parce qu'ils ont besoin d'un encadrement. Ils ont besoin d'apprendre les valeurs, ils ont besoin d'apprendre des choses que c'est pas correct mentir. Tu laisses un enfant lui-même, il va mentir. C'est-tu vrai? Êtes-vous d'accord avec ça? Hey, c'est vrai, tu laisses un enfant lui-même, là. Tu l'as pincé à faire quelque chose, tu vas lui dire, il va dire, hey, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est vrai? As-tu déjà fait ça? Hein? Lève ta main si tu as déjà fait ça quand tu étais jeune, là. Hein? Oh, ouais, vous êtes. Ah, pas pire, OK, il y a pas mal de gens humbles ce matin. Mais c'est ça, les enfants ont besoin d'apprendre. C'est comme la petite fille, tu sais, elle avait été tannante toute la semaine. Alors, maman, elle dit, écoute, toi, tu n'iras pas au pique-nique là, du TEE, là, l'école du dimanche. Tu n'iras pas, tu as été tannante toute la semaine. Alors là, à un moment donné, vers la fin de la semaine, la maman se sentait mal. Elle dit, je pense que j'ai été un peu trop dure avec mon enfant. Elle est punie. Je sais qu'elle aime bien ça, l'école du dimanche. Elle voudrait y aller. Toutes ses amies sont là. C'est une belle journée. Donc, je vais aller la voir. T'sais. Fait que finalement, elle s'en va voir sa fille. Puis elle se sentait mal. Puis ça, écoute, chérie, finalement, là, c'est correct, tu peux aller au pique-nique. T'sais. Ça va faire plaisir de t'envoyer là. Puis tout, la fille était triste. Elle ne riait pas pantoute. Elle était triste, puis tout ça. Et sa maman, elle dit, « Bien voyons, chérie, je pensais que tu avais hâte d'aller au pique-nique. Je comprends pas. Je pensais que tu aurais été contente. Je pensais que c'était une bonne nouvelle, tout ça. » Elle dit, « Il est trop tard. J'ai prié pour de la pluie. » Hey, les enfants, elle a appris une bonne leçon ce matin-là, hein? De ne pas souhaiter gâcher la journée des autres, hein? Elle avait une leçon à apprendre. Mais vous savez, c'est la même chose que pour chacun d'entre nous autres. On a besoin d'apprendre. Il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre. Comment nous aimer, par exemple, ardemment et profondément les uns les autres. On a besoin. On grandit et on a besoin de grandir. Et vous savez, on pense que c'est pire aujourd'hui, mais ça a toujours été comme ça. Vous savez, il y a des gens, des fois, on parle des adolescents. Vous savez, les ados. Est-ce qu'il y a des ados ici? C'est correct. Je sais, à l'âge adolescent, on ne veut pas lever la main. On veut rester tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est correct. Je ne vous demanderai pas de vous lever la main. Tout ça, non. Mais je le sais. On a passé par là, vous savez. Il n'y a pas tellement longtemps que j'étais là-dedans, dans l'adolescence. En tout cas, là, vous savez comment les gens se plaignent des ados, là? Les gens sont là, ah, les ados, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, en 2013, c'est incroyable, les ados, ils n'ont plus de valeur, puis ça. C'est terrible comment les ados, ils sont aujourd'hui. Ah, en 2013, hey, dans mon temps, c'était pas comme ça. C'est, ouais, tu veux en savoir une bonne? Les archéologues, vous savez ce qu'ils ont découvert? Les archéologues ont découvert un chroniqueur dans le temps de Pharaon. Est-ce que c'est assez loin, ça? C'est pas comme la semaine passée. Il y a 5000 ans passés, ils ont découvert un manuscrit qui aurait été écrit par un chroniqueur pharaonique, et voici ce qu'il dit. Il se plaint, là. 5000 ans passés, et voici ce qu'il dit. Il dit, c'est la décadence. Il dit, c'est la décadence, les enfants n'obéissent plus. Le langage s'abîme, les mœurs s'amollissent. Il y a 5000 ans passés. Vous savez pourquoi? Et on le sait, bien, premièrement, c'est évident, on le sait, nous autres, dans les Écritures, que c'est le cœur, n'est-ce pas? C'est le péché qui est là, qui nous rend comme ça, nous faire faire des bêtises, du péché, tout ça. Mais il y a aussi l'élément de stade de développement, de croissance. On a besoin d'apprendre aussi des choses, des nouvelles valeurs, des nouvelles attitudes, comment se conduire, le respect, tout ça. C'est un principe qui demeure, le besoin de grandir. Puis c'est la même chose pour les chrétiens. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un nouveau chrétien, alors là, mon ami, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent en dedans de toi. Là. Si tu viens juste d'accepter le Seigneur, j'ai entendu parler des témoignages, des beaux témoignages des gens qui viennent d'accepter le Seigneur. Il y a une chose qui se passe quand tu viens d'accepter le Seigneur, mon ami. Là, dans ta tête, là, tu as un paquet de questions. Il me semble que tu te poses des questions que tu ne posais pas avant. Là, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Moi, je me rappelle quand je me suis converti. Hey, mon ami, là, il y a un chambardement qui se passe. Moi, je restais, je ne voudrais pas peut-être le dire. Dites-le pas à personne, d'accord? On garde ça à nous autres. Là. Mais moi, quand je suis venu au Seigneur, moi, je restais avec ma copine, qui est aujourd'hui ma femme, d'accord? Ouais, je confesse, c'est terrible, tu vas peut-être pas ma job un matin, je sais. Désolé. Mais alors, moi, je me suis converti. Nous, je restais avec ma copine, tu vois, puis avec Lise, on avait notre logement, puis ça allait, puis etc. T'sais. Là, on se convertit, on vient au Seigneur, tu sais. Puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe en dedans, là. Il y a quelque chose qui me dit, il n'y a pas personne, là. Personne qui est venu me voir, dit, hey, tu restes avec ta copine, tu vois. Des fois, on a besoin de ça, absolument, on a besoin de ça, parce que des fois, on ne le sait pas. Alors, on a besoin de l'intervention des frères et sœurs qui nous aiment, qui veulent nous voir grandir, absolument. Mais moi, dans mon cas, je n'étais pas rendu là encore. Je pense qu'ils ne me connaissaient pas assez, j'avais une vie comme. Je venais de me convertir, je venais de rentrer dans l'Église. Alors là, à un moment donné, ça me fatiguait. Je dis, je pense que c'est pas correct, ça, qu'est-ce qu'on fait. Je pense! t'sais, là, écoute, t'as toutes sortes de nouvelles affaires qui se passent. Je viens de me convertir, je commence à lire ma Bible, tout ça. Maintenant, c'est pas écrit dans la Bible, tu ne resteras pas dans le même logement que ta femme. Là, c'est pas écrit comme ça, tu sais. Mais là, il y a quelque chose qui se passait dans moi, là, c'est comme le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a quelque chose qui marche pas. Tu as besoin de grandir, Normand, puis si tu veux grandir, tu as besoin de prendre une décision. Là, je ne savais pas. Là, ça m'achalait. Alors, je suis allé voir le pasteur. Alors, je m'en vais voir le pasteur, puis je lui ai demandé, carré. Ah, il a dû trouver ça bizarre, mon ami. Je suis allé voir, je lui ai dit, écoute, monsieur le pasteur, je lui ai dit, moi, je reste avec ma copine, on reste ensemble, puis tout ça, puis c'est-tu correct? Non, mais écoute, j'ai pas de paquet de questions. Tu sais. Il dit, c'est-tu correct? Il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Sa réponse. Sa réponse. Pas compliqué. Fais tes valises, puis sors de là. Ah oui? Oui, oui, oui. Ah, OK, bon, on s'est mariés 6 mois après, vous comprenez, hein? Fait que là, on a mis notre vie en règle. Mais c'est des affaires que je ne savais pas. Je ne comprenais pas. Il y avait tout ça. J'allais toujours voir des chrétiens dans l'église, je disais, c'est-tu correct, ça? Est-ce que c'est correct, ça? Hey, ça c'est correct? Non, mais ça, c'est correct, là. Je ne sais pas. C'est correct? C'est correct? Toujours, c'est toujours. Parce que tu es un bébé dans la foi, tu es un bébé spirituel, tu as un paquet de questions, tu comprends pas, tu sais. Ça, c'est correct. C'est tout à fait correct. C'est bon. La vie chrétienne, c'est pas plate, c'est excitant. Il y a tout, Dieu veut nous faire grandir, puis on découvre, on grandit. Alors, quand on se convertit, on a besoin de grandir. Un passage que j'aimerais vous lire, il y a deux passages en fond. Dans le fond, trois peut-être, ou deux, en tout cas. On verra. On verra en chemin qu'est-ce qu'on va faire. Éphésiens 4, verset 11, voici ce que ça dit. Ça dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. Voyez? Vous voyez cette croissance, cet élément-là de grandir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, qui est Christ. Vous voyez, ailleurs dans Galates, c'est essentiellement la même chose. Ça dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. Lorsque tu deviens chrétien, bien des choses vont commencer à changer à l'intérieur. Il va commencer à y avoir un conflit à l'intérieur. Tu ne sentais pas pendant tout ce conflit-là avant de devenir chrétien, tu n'avais pas ce conflit-là. Mais maintenant que tu deviens chrétien, notre chair, et c'est le terme que Paul va employer, notre chair combat contre l'Esprit de Dieu, puis l'esprit combat contre notre chair. Donc, il y a une lutte qui se livre à l'intérieur. Là. Et quelqu'un qui vient de se convertir, qui vient d'accepter Jésus-Christ, qui vient de mettre sa foi dans Jésus-Christ, c'est nouveau pour lui. Alors, là, il y a tout un bagage d'émotions qui se passent, il y a toutes sortes de questionnements, puis il y a ce combat spirituel qui est nouveau pour lui, il ne comprend pas ça. Le combat entre la chair et l'esprit. Avant de devenir un chrétien, ton cœur entier s'opposait plutôt à Dieu puis au salut de Dieu. D'ailleurs, on voulait être notre propre sauveur, on voulait avoir la paix, puis dérangez-nous pas, puis moi je vais faire ce que je vais mener la vie que je veux, puis laissez-moi tranquille. On s'éloignait de Jésus, on fuyait le sauveur. On s'opposait même à l'idée d'avoir besoin d'un sauveur. Mais à partir du moment que tu deviens un chrétien, là, un nouveau système de valeurs commence à rentrer. Là. Il y a un chambardement, il y a des questionnements, il y a une nouvelle puissance qui arrive. Ton cœur commence à travailler d'après un nouveau système de valeurs. Et là, il y a tout ce chambardement-là. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Il y a ce combat-là. Il y a un combat spirituel qui se livre. Une belle image qu'on a par Campus pour Christ qui dit ceci. C'est la comparaison. Ils ont mis en image, finalement, ce qu'on voit dans les Écritures. C'est l'homme naturel. J'aime bien cette image parce que ça parle du moi qui est sur le trône de ma vie, de mon cœur. C'est au centre. C'est moi. Je domine ma vie. Je contrôle. Ça, c'est Jésus-Christ à l'extérieur de ma vie. Je ne veux rien savoir de lui. Il est en dehors de ma vie. Et le verset dans 1 Corinthiens 2, 14 qui dit « L'homme naturel, la femme naturelle ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors ça, c'est là où on se trouvait avant de se convertir, avant de venir à Jésus-Christ. On était notre propre maître, notre propre roi, notre propre sauveur, notre propre Dieu. Mais là, il y a quelque chose qui se passe lorsque tu deviens chrétien, tu viens à Jésus-Christ, la personne spirituelle, complètement différente, dirigée par le Saint-Esprit, la vie dirigée par Jésus-Christ. Jésus est au trône, est au centre de ton cœur, de ta vie, tu acceptes Jésus-Christ, là, et Jésus prend la place, et là, tranquillement, le moi se tasse, et Jésus est à la première place dans ton cœur, et ça dit que la personne spirituelle a la pensée de Christ. Mais malheureusement, le combat maintenant commence. C'est là que le combat commence, parce que là, il y a toujours ce combat, parce que le moi veut revenir sur la chaise, sur le trône de ton cœur, et tu livres ce combat-là. Et, ça, je ne devrais pas vous montrer ça tout de suite. Ouais. Bien, peut-être, hein? Un bébé qui a, juste pour vous dire que nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de grandir, nous avons besoin d'apprendre des leçons, pas vrai? Parce qu'on ne sait pas quand on est jeune ce qu'on fait, on ne réalise pas les conséquences de ce qu'on fait. On a besoin de grandir et apprendre, comme ces jeunes. Il y a des choses, c'est pas tout à fait, ça va pas. Mais c'est comme ça, on veut grandir, on a besoin de grandir. Les jeunes enfants ont besoin d'aide, ils ne comprennent pas les dangers. Sinon, on va rester faible. C'est ça qui arrive. Il y a des gens qui vont rester pendant des années au même stade parce qu'ils vont vivre une expérience. Ils vont peut-être perdre quelque chose, peut-être même la santé, peut-être quelque chose qui arrive ou perdre quelqu'un de très cher dans la famille. Et il y a une colère qui s'installe dans le cœur. Et là, ils restent comme paralysés où ils en sont. Ils restent à l'enfance spirituelle. Mais Jésus veut vous inviter à venir par la foi et déposer ses craintes, cette colère, ses questions sans réponse. Il veut vous venir à lui et vraiment tout déposer à ses pieds afin que vous puissiez être libre de devenir tout ce que le Seigneur aimerait bien que vous puissiez devenir. Il veut vous voir grandir. 1 Jean 2, 12 dit ceci, « Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous. » Et que vous avez vaincu le malin. Certains parmi vous, vous connaissez John Newton. C'est celui qui a composé le chant « Grâce infinie ». Il a composé plusieurs chants, mais aussi il a écrit des lettres, plusieurs lettres. Et d'ailleurs, certains recueils ont été même traduits de ces lettres. On en a plusieurs de ces lettres qui ont été traduites en français. Et puis, voici comment il comprend toute cette croissance. Il s'inspire effectivement d'un Jean, de ce passage qu'on vient de lire. Et voici comment il définit la croissance. Il dit, au stade de l'enfance, il dit, Jean dit, petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés. Vos péchés vous sont pardonnés. Dans le fond, il est en train de dire, ça c'est les premiers pas de la vie chrétienne où tu commences à comprendre l'Évangile. Tu commences à comprendre que c'est Jésus-Christ qui a pris tes péchés sur lui à la croix. Il dit, il faut comprendre au premier stade, au stade de l'enfance spirituelle, ce qui est immensément important, c'est de comprendre que nos péchés ont été pardonnés. Il dit, c'est la première leçon. de savoir que mes péchés sont pardonnés. Il dit, c'est de bien saisir l'Évangile. Et il dit, il va jusqu'à dire, on ne pourra jamais sortir de l'enfance si on ne comprend pas et on ne croit pas du fond de notre cœur que nos péchés ont été pardonnés. John Newton ajoute un détail intéressant. Il dit, cela semble simple de croire que nos péchés ont été pardonnés, mais chaque nouveau-né spirituel a des restants d'un esprit légaliste en lui. Une façon de jauger si nous sommes toujours à l'enfance spirituelle, c'est de voir à quel degré nous sommes sensibles aux critiques. Si l'on a de la difficulté avec la repentance et si on se sent vexé facilement, et si l'on se préoccupe beaucoup de la façon que les gens nous perçoivent. Tous ces indices laissent voir une personne qui n'a pas encore tout à fait saisi qu'il est pardonné par Dieu, qu'il est accepté et qu'il est aimé. Tous ces sentiments reposent sur une conception de justice personnelle. C'est qu'il reste, dit-il, des restants de la pensée selon laquelle on se justifie au bout du compte par soi-même. C'est l'impression que je suis aimé si je fais ceci ou si je fais cela. Bien des gens ont des émotions à faire de fleur de peau, selon que les gens les aiment, les approuvent ou les remarquent ou pas. Les émotions des bébés spirituels sont comme des montagnes russes. Il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. La raison, dit Newton, c'est qu'ils ne sont pas entièrement convaincus que leurs péchés sont pardonnés. Ils ont besoin d'apprendre à trouver leur acceptation totale en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. On reste dans l'enfance spirituelle quand on essaie encore de mériter le pardon. Aussi longtemps qu'on reste là, on va rester des enfants spirituels. Un autre auteur, Martin Lloyd-Jones, va même plus loin dans ce passage et il dit, si vous n'êtes pas certain du pardon de vos péchés, cela est un péché en soi. Il dit, certaines personnes croient que c'est d'être orgueilleux que de prétendre être pardonné. Ils préfèrent donner l'impression d'être modeste et humble. Ils disent, je ne me sens pas assez bonne pour être pardonné. Mais voici ce qu'il dit. Il dit, le problème avec cette pensée, c'est qu'elle ne repose pas sur l'œuvre complète, finie et parfaite du Fils de Dieu sur la croix. Il s'est offert sur la croix pour vous et moi afin d'effacer tous nos péchés. Amen. Martin Lloyd-Jones pose la question, êtes-vous certain que vos péchés sont pardonnés? Êtes-vous vraiment certain? Êtes-vous certain que peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites aujourd'hui, vos péchés ne peuvent vous condamner. Êtes-vous convaincu que rien ne peut vous arracher des mains de Dieu? Est-ce que j'entends des amen ici? Lord Jones poursuit en disant, c'est la première chose. On ne peut franchir ce point à moins de réellement comprendre et être convaincu que Jésus a porté nos péchés sur la croix à la mort et qu'il est ressuscité et qu'il nous représente maintenant. Il nous représente auprès de Dieu. Il est notre sécurité, notre avocat, notre substitut auprès de Dieu. Te reposes-tu entièrement sur lui et personne d'autre pour lui pour te représenter au jour où tu vas te présenter devant le grand trône blanc de Dieu? Si tu peux, et seulement si tu peux, alors tu peux vraiment dire, tes péchés sont pardonnés. 1 Jean 2,12 dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, à cause de lui. Jusqu'à ce que nous soyons convaincus, on ne pourra pas aller plus loin. J'espère que vous le voyez, car plusieurs restent longtemps au stade de l'enfance spirituelle, car ils n'en viennent pas à savoir que leurs péchés sont pardonnés entièrement et parfaitement en Jésus-Christ. C'est la raison que nous avons besoin de retourner très souvent à l'Évangile. Le second stade, les jeunes gens, les ados. Eh bien, 1 Jean 2,13 dit, Jean dit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Verset 14 dit, vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Quel est ce stade? Bien, John Newton pense qu'il s'agit de l'adolescence spirituelle. Il fait un parallèle, enfin. Il dit, lorsque les enfants grandissent à 14 ans, là, c'est plus le temps de leur dire, bien, traverse pas la rue. Fais attention quand tu vas traverser la rue, regarde chaque côté. C'est lorsque ton enfant a 14 ans, 15 ans, il y a des nouveaux défis qui se présentent à eux. Et John Newton va s'inspirer de ce stade-là, cette expérience-là, alors que les ados, les adolescents vont commencer à prendre, à relever des défis par eux-mêmes. Et maman et papa ne sont pas à côté, ils sont comme seuls. Et l'expérience, l'assurance, aidant, etc., les années, l'éducation, etc., fait en sorte qu'ils ont maintenant de nouveaux défis devant eux. Eh bien, pour John Newton, ces nouveaux défis auxquels ce stade de développement va exposer les jeunes, c'est le fait que, vous savez comment au début, on sent vraiment la présence de Dieu. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une grâce spéciale qui fait que dans bien des cas, en tout cas, on a cette impression-là que là, Dieu est avec toi, là, puis là, c'est comme, wow, il y a bien des émotions. Mais tranquillement, le Seigneur sait que la vie chrétienne, ce n'est pas juste des émotions. Il veut te voir grandir et marcher de plus en plus avec les yeux de la foi. Donc, ce qu'il va faire, il va permettre que tu aies des défis et il va un petit peu juste se retirer dans le sens qu'il te, il est toujours là, il est toujours présent, mais il va faire en sorte que tu le sentes moins présent, si tu veux. Une façon de le dire, c'est comme ça. Et John Newton voit ce stade-là de développement où tu dois relever maintenant des nouveaux défis dans la foi et marcher plus en plus selon les promesses, selon les Écritures, et moins sur les émotions. Et c'est ce stade-là. Newton fait la comparaison suivante. Il dit, à l'enfance, nous avons probablement beaucoup d'émotions, mais peu de connaissances de la vérité. Au second stade, nous éprouvons moins d'émotions, mais plus de connaissances de la vérité. Jean dit, jeunes gens, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Voici comment on sait qu'on a quitté l'enfance spirituelle, d'ajouter Newton. On apprend à être fort, on a des victoires sur des combats spirituels, on connaît la parole de Dieu. Les gens sont donc marqués par la parole de Dieu. John MacArthur l'a bien exprimé lorsqu'il dit ceci, en expliquant ce passage. Il dit, le deuxième degré de croissance spirituelle amène les croyants à délaisser une relation élémentaire pour se concentrer sur la révélation biblique. Les jeunes gens spirituels se reconnaissent à leur compréhension de la vérité. Ils ont surmonté les combats élémentaires auxquels font souvent face les nouveaux chrétiens. Ils ont une perception biblique des choses. Et Newton d'ajouter, à ce stade, nous faisons moins confiance à notre cœur ou nos sentiments et l'on dépend davantage sur Dieu. Nous avons appris à consulter la parole de Dieu pour prendre des décisions et on se fie de moins en moins à nos sentiments qui sont trompeurs. On devient de plus en plus humble, on aime plus profondément, on pardonne plus facilement aux autres, car on comprend mieux l'Évangile. Le Père maintenant. 1 Jean 2,13 dit, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Ça parle de connaissance, d'intimité. On connaît Dieu. Alors, ceux qui se rendent là, à ce stade de développement, sont rendus qu'ils ont traversé, ils ont des convictions maintenant bien ancrées, enracinées en eux. Leurs convictions sont là et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils grandissent encore en communion et en relation intime avec Dieu. Voici le dernier stade de développement. Ils connaissent le Seigneur. Ils connaissent Dieu. Ils sont en communion intime avec Dieu. Ce stade se reconnaît au fait qu'on n'est pas uniquement, on n'a pas uniquement une compréhension intellectuelle de la saine doctrine. On connaît le Dieu des doctrines. Et c'est la prière de l'apôtre Paul. Voici ce qu'il dit dans Éphésiens 3. Il dit, vous puissiez, c'est sa prière, il dit, je prie afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, quelle belle prière! Les pères et les mères, dans la foi, ont développé l'habitude de la communion avec Dieu. On regarde à Jésus qui est notre modèle, on regarde à Jésus qui était toujours en communion intime avec son Père. Passer d'un stade à l'autre ne se fait pas tout seul. On a besoin d'aide, des amis. On a besoin d'être entouré. La semaine prochaine, on va regarder quelques outils pour nous aider à le faire, mais un des principes, c'est qu'on a besoin d'aide. La semaine qui vient de passer, je suis allé déjeuner avec Greg Gibson, c'est celui qui devait implanter une église avec le Met à Elmer. Et puis, je suis allé déjeuner avec lui cette semaine, avoir des nouvelles et tout ça. Et puis, il me racontait quelque chose qui vient de se passer avec lui. Il est allé à la bibliothèque l'autre jour, et puis il a mis sa Bible. Et il s'en va à la bibliothèque, il est assis à la table ici, à la bibliothèque, puis il commence à lire sa Bible. il y avait une jeune fille de 21 ans qui était juste à côté de lui, et puis à quelques pieds près. Et elle avait des écouteurs, elle écoutait de la musique, puis je présume qu'elle était en train de lire et tout ça. Fait que finalement, Greg lui a demandé « Bonjour, c'est quoi ton nom et tout ça? Qu'est-ce que tu es en train d'écouter? C'est quoi la musique que tu écoutes? » Alors la jeune fille de 21 ans, elle lui a répondu quel genre de musique elle écoutait, c'était quoi la chanson qu'elle était en train d'écouter, tout ça. Puis elle a remarqué qu'elle était en train de lire un livre un peu spécial. Puis elle a dit, OK, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle est en train de lire? Il dit la Bible et tout ça. Puis là, il a commencé à lui raconter l'histoire qu'elle était en train de lire justement dans les Évangiles, l'histoire de Jésus. Puis il a commencé à lui parler, c'était une discussion que Jésus est en train de parler à son père et Dieu est un père, etc. Alors la fille a dit, Dieu est un père? Elle dit, Dieu est un père. Ah, elle dit, Dieu est un père. Ah, elle dit, je trouve ça tellement beau. Elle dit, hein, Dieu est un père. Ah, je trouve ça beau. Et pour la première fois de sa vie, elle entendait quelqu'un parler de Dieu comme un père. Et c'est incroyable. Et là, elle dit, j'en reviens pas, comment c'est beau. Père, aïe, aïe, puis là, elle parlait de la relation avec Dieu. Père, tu peux avoir une relation. Puis là, Greg, il parlait un petit peu, puis il l'a invité à venir. Il a commencé, il dit, j'ai un petit groupe d'études bibliques à la maison, je suis avec ma femme, on est avec quelques personnes, on n'est pas nombreux, mais on a commencé des petites études bibliques, si tu veux, apprendre à connaître ce Dieu-là, Dieu Père, puis ça, tu peux venir, je t'invite, c'est gratuit. Elle dit, ouais, certain. Elle dit, ben oui. Puis là, depuis quelques semaines, elle va chez Greg, étudier la Bible, et c'est tellement beau, Greg me dit, à chaque semaine, elle découvre. Mais c'est ça. Elle est en train de cheminer, elle est en train de découvrir le Dieu de la Bible. C'est pas magnifique, ça? Et elle est au stade, elle est juste sur le bord de se convertir et devenir un enfant de Dieu au premier stade de la vie chrétienne. Et c'est magnifique. Alors, elle a plein de questions, elle est en train de découvrir les Écritures. Elle est en train de découvrir, c'est qui Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous autres? Il veut être notre Père céleste. Aïe, il va avoir une relation avec moi. Aïe, c'est tellement beau. Et quand tu viens au Seigneur, t'es comme un petit enfant spirituel. T'es là. T'es un petit enfant spirituel. Puis t'as besoin de grandir. T'as besoin d'être entouré pour grandir. Mais il y a différents stades. Tu veux pas rester à l'enfance. Et peut-être que même ce matin ici, tu n'es même pas encore en enfance. Peut-être que tu viens ici. Peut-être que tu réfléchis. T'es en cheminement. T'es en train de réfléchir si toi, tu veux devenir un enfant de Dieu. Mais peut-être que ce matin, c'est ton matin. Est-ce que le Saint-Esprit te parle en ce moment dans ton cœur, dire « Fais le pas, accepte Jésus, donne ta vie au Seigneur. » Et oui, j'inviterai des musiciens à venir pendant qu'on est en train de clore ce message. Et le Seigneur veut t'appeler à faire un pas de plus dans ta foi. Mais tu as besoin de faire quelque chose ce matin par la foi. Tu as besoin de dire au Seigneur « Oui, je veux grandir. » C'est ça le message ce matin. Que tu prennes simplement la décision. On va voir les outils la semaine prochaine. On va regarder ça ensemble, comment on peut favoriser la croissance, comment on peut s'aider à grandir et tout ça. Mais ce matin, il faut qu'on en vienne à la place où on dise, oui, moi, je veux grandir. Oui, Seigneur, moi, je veux grandir. Il y a peut-être que je suis resté accroché par des choses qui me sont arrivées dans le passé. J'ai connu des gens qui, pendant 5 ans, ont arrêté de grandir. Ils ont dit, moi, je ne veux plus rien savoir. J'avais de la colère dans le cœur parce qu'il y a des choses qui se sont passées. J'ai été blessé par des chrétiens. Puis ils ont tout arrêté. Ils sont sortis de l'Église pendant 5 ans. Peut-être que tu es là ce matin. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées. Peut-être que tu as été blessé. Et là, tu traînes une rancœur. Tu as une rancune. Tu as une colère dans le cœur. Mais tu as besoin ce matin de venir déposer ça aux pieds du Seigneur. On va tous se lever, si vous voulez bien, ensemble. On va chanter un cantique. Peut-être placer le chant en avant ici. Là.